Bonsoir, merci d'être venu. Donc voilà, moi je suis très heureuse d'accueillir ce soir Bertrand Lasfan qui donc intervient, on va dire, dans le cadre de l'exposition de Laurent et Cyril Berger, Altered Space. Cette rencontre fait suite à une première invitation qu'on avait fait donc en mai dernier. Donc on avait contacté Bertrand Lasfan pour lui proposer d'écrire un texte qui soit en lien avec une œuvre qui est présentée en exposition qui s'appelle L'Astre Blanc. Donc une œuvre qui présente, on va dire, un aspect assez singulier de la Terre, puisqu'il s'agit d'une représentation de la Terre qui serait privée de ses couleurs, donc blanche, et aussi qui montre les dernières études géodésiques de la Terre, donc qui montre finalement une Terre qui ne serait pas totalement sphérique, mais qui aurait une forme patatoïdale, voilà, donc avec des reliefs assez singuliers et qui sont évidemment en perpétuel mouvement. Donc Bertrand Lasfan, la raison pour laquelle on l'a invité, c'est que d'abord il y avait ce premier livre qui s'appelle La géocritique, réel, fiction, espace, qui avait été publié en 2007 aux éditions Minuit. Voilà, donc Bertrand Lasfan qui enseigne à l'université de Limoges, université dans laquelle il a créé un laboratoire de recherche, axé donc sur la géocritique, qui est une pratique, en tout cas une recherche que vous avez créée, fondée, et qui s'appuie donc sur une réflexion sur l'espace à travers la fiction, à travers donc la fiction telle qu'elle est relayée dans la littérature, mais également au cinéma et aussi à travers la peinture. Et donc je trouvais qu'il y avait une approche comme ça assez passionnante dans la manière d'aborder l'espace, puisqu'il ne s'agit pas d'aborder d'un point de vue scientifique, mais plus de l'aborder du point de vue de ses représentations à travers un espace fictionnel. Et on ne savait pas à l'époque qu'il était en train d'écrire un autre livre qui vient de sortir à l'instant, et qui s'appelle « Le monde plausible, espace, lieu, carte », et qui pour le coup est encore plus dans le sujet, en tout cas dans un des aspects de cette exposition, où il est notamment question de la représentation des espaces à travers la représentation du monde. Comme on peut le voir ici dans cette œuvre qui s'appelle Ghost Town, qui représente une carte des villes fantômes à travers le monde, mais à travers l'histoire aussi, qui est une approche, évidemment, elle ne recense pas toutes les villes fantômes qui ont pu exister, mais en tout cas celles qui sont recensées sur Internet et aussi à travers différentes sources bibliographiques. Et donc, évidemment, on peut remarquer qu'il y a plus de continents ou de pays qui ont fait ce travail de recensement, dans la mesure où ces villes fantômes appartiennent à leur culture, et d'autres, au contraire, qui ont totalement disparu. Voilà, donc il y avait ce projet, et surtout le projet de l'astre blanc, donc, qui était cette sphère blanche. Quand on en a parlé à Bertrand Lasfan, tout de suite, ça l'a beaucoup enthousiasmé, ça l'a beaucoup animé, on va dire, intellectuellement et personnellement aussi. Et donc il s'est lancé dans l'aventure de l'écriture de ce texte, qui est un texte assez singulier, puisque on retrouve quand même la dynamique de pensée qui est propre à ces deux livres, mais surtout là il y a une entrée qui est plus fictionnelle et qui rejoint aussi tout un tas d'éléments assez personnels. Voilà, donc il y a un mélange comme ça entre une approche théorique, une approche fictionnelle et une approche que je qualifierais d'un petit peu autobiographique. Voilà, et donc...
Comme tout texte.
Pardon ?
Comme tout texte.
Comme tout texte, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on le voit bien, puisque de temps en temps, comme ça, ressurgit le personnage Bertrand Lasfan, qui ne ressurgit pas nécessairement dans les autres livres. Donc voilà, donc ça nous intéressait d'inviter Bertrand Lasfan pour prolonger un petit peu cette réflexion, non pas seulement à partir de l'astre blanc, mais aussi à partir de toute cette réflexion qu'on retrouve dans le monde plausible et qui, à mon sens, est véritablement passionnante, justement, sur tout ce qui touche à la question de la représentation du monde à travers l'histoire de l'humanité, à travers les différentes cultures aussi, et à travers donc les modes de représentation qui ont été en tout temps utilisés pour rendre compte donc, de cette représentation du monde. Donc il y a différents aspects comme ça qui sont traités et que moi j'aimerais aborder avec vous dans un premier temps pour peut-être petit à petit aller plus vers le travail des bergers à proprement parler. Donc une chose qui m'a beaucoup intéressée, notamment dans ce livre, c'est que vous parlez de l'origine spatiale de la modernité. Donc vous faites remonter la modernité à un épisode qui n'est pas celui que pointe Jean-François Lyotard. Lui, Jean-François Lyotard, dans son livre sur la postmodernité, évoquait donc que la modernité pouvait être spatialement datée en Pologne en 1942.
La fin, oui.
La fin, oui. Donc, mais vous, vous le faites remonter à un épisode qui se serait passé aux Canaries, comme étant un des laboratoires de la modernité. Donc ça, je trouve c'est intéressant peut-être de démarrer là-dessus pour après parler de ce que vous, vous évoquez sur le monde plausible, donc comme étant pour le coup une définition même du postmoderne, puisque la postmodernité parle des différents mondes possibles, mais vous posez une nouvelle définition qui est celle du monde plausible. Donc voilà, on va parler de l'espace moderne, l'espace postmoderne, l'espace contemporain peut-être. Donc voilà, peut-être on peut commencer par cet épisode des Canaries et puis dérouler un peu le fil de tout ça.
D'accord, l'entrée en matière n'est pas la plus joyeuse à vrai dire, parce qu'on associe souvent les Canaries à un paradis touristique estival. Et en l'occurrence, les Canaries sont associées à un des premiers épisodes tragiques des temps modernes. C'est peut-être, enfin, j'ai une vision qui n'est pas spécialement optimiste de la modernité. Justement, vous citiez Lyotard tout à l'heure, c'est un texte qui s'appelle de manière d'ailleurs très, très ironique le postmodernisme. Si mes souvenirs sont bons, s'expliquer aux enfants. Mais qui n'est pas véritablement expliqué aux enfants, mais vu que personne n'a jamais tenté de comprendre ce qu'était le postmodernisme en France, et il a fini par trouver ce titre très ironique. Et dans ce livre, il explique que la modernité s'arrête quelque part en Pologne en 1942. Bon, on voit tout de suite à quoi il fait allusion, hein. C'est l'expérience concentrationnaire qui marque la fin d'une modernité qui serait rattachée elle-même à l'idée de progrès. C'est-à-dire que, bon, enfin, ça, après c'est moi-même qui ai développé l'idée ailleurs, c'est la dissociation entre l'idée de, enfin, entre la progression du temps et le progrès. Hein, pendant toute la modernité, on associe progression et progrès. Toute progression va dans le sens d'un progrès. Et là, justement, enfin, pour prendre cette date symbolique de 1942, enfin, toute expérience de concentrationnaire, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, il y a aussi Hiroshima, enfin, toutes les délires technologiques aussi qui se sont produits autour de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les deux n'allaient plus ensemble. On pouvait difficilement imaginer une espèce de synonymie qui partirait de progrès et de progression du temps. Donc ça, c'est pour la fin. Puis après ça, effectivement, on entrerait, et je suis parfaitement d'accord avec Lyotard, dans un régime différent qui serait autre chose. Cette autre chose pourrait être la postmodernité. Alors c'est vrai que la postmodernité elle-même tend maintenant à être... on a le nez dessus, donc c'est très difficile de dire dans quoi on est, évidemment. Mais on parle beaucoup de post-humanité aussi maintenant, avec l'idée de... Enfin, tous les travaux qui sont explicités par la science-fiction, l'idée du dépassement du corps, justement, ou du corps comme support... technologique même, il y aurait beaucoup à dire. Donc ça c'est pour la fin, ça c'est relativement classique. La question, quand il y a une fin, il y a un début d'habitude, alors c'est la... quand est-ce que la modernité commencerait? La modernité, alors de manière très très symbolique et hâtive, généralement est associée à la date de 1492, qui est perçue enfin comme le début d'une espèce d'histoire sainte, c'est le cas de le dire, hein, c'est le début des conversions massives et forcées. J'ai trouvé, peut-être pour me distinguer, une date qui intervient un petit peu plus tôt, c'est 1402, c'est le début de la conquête des Canaries par les Espagnols. Enfin, façon de parler, les Espagnols avaient confié la tâche à un mercenaire d'ailleurs français, Jean de Bettencourt. Et ce début se traduit justement par une première opération qui va conduire à l'effacement complet, enfin, utilisons le terme, extermination d'une population. Ce sont les Guanches, qui sont des aborigènes, alors berbères, qui habitaient les Canaries avant que les Européens n'arrivent. Des habitants qui ne savaient ni naviguer ni nager, donc on n'a jamais bien compris comment ils avaient pu passer du continent nord-africain aux Canaries. Ça, c'est un véritable mystère, mais c'est pas le seul, il y en a plein comme ça, autour des peuplements. Et en l'espace de... Je ne suis pas historien, je pense d'un siècle et demi, il n'y a plus de Guanches. Alors il y a eu des noyades massives, ou alors par assimilation aussi, des mariages, ou... Donc voilà. Alors effectivement, si on a une vision de la modernité qui commencerait à ce moment-là, mais qui pourrait même commencer en 1492, simplement les Canaries seraient le banc d'essai de ce qui s'est passé ensuite dans les Amériques, puisque là aussi il y avait des Indiens Caraïbes, et aujourd'hui il n'y a plus d'Indiens Caraïbes. Et qui donc effectivement finirait autour de la Deuxième Guerre. Ça n'a pas commencé terrible et ça a fini pire, quoi, grosso modo.
Mais ça, donc, vous parlez aussi d'une espèce d'expansion, finalement, de ces génocides, ou en tout cas de la capacité à nuire manière massive à ce qui serait une autre culture, ou en tout cas à l'individu. Et que ça, à un moment donné, on est arrivé à une telle extrémité qu'à partir de là, on ne peut plus aller plus loin. Que là, maintenant, du coup, c'est une autre possibilité, ne peut se poser qu'une autre possibilité d'envisager le monde, puisque ça y est, la boucle du monde est bouclée dans son rapport finalement à travers la conquête. L'idée supposée.
Qui est le propre de l'Occident aussi, parce que ça aussi, je crois que c'est un élément important, parce que là, on est en train de parler du monde. Façon de parler, justement, parce que là j'ai fait un gros effort, j'avais pas fait dans la géocritique, ça a été remarqué par certains, notamment du côté du Québec. J'avais quand même ouvert un petit peu sur d'autres cultures, mais c'est vrai que je m'étais concentré sur la culture européenne, peut-être plus largement sur les cultures occidentales, nord-américaines. Et là, justement, dans le nouveau, je me suis efforcé d'aller voir ce qui se passait ailleurs, par curiosité intellectuelle, mais également pour avoir des pôles d'opposition. Les identités se construisent toujours par opposition. On n'est pas ce qu'on est. On est aussi ce qu'on n'est pas par rapport à d'autres, et alors il suffit de déterminer ce que seraient les autres. D'où le danger extrême de tout débat sur les questions d'identité. Et ça s'est vu, je crois, en France, il n'y a pas très très longtemps. Il faut faire très très attention, parce qu'on n'est pas ce qu'on est, on n'est pas ce que les autres sont. Simplement, on fantasmera sur les autres et on essaiera de définir qui serait son propre autre. Je suis allé voir un petit peu dans d'autres cultures qui ne sont pas occidentales, donc du côté de la Chine, en Afrique, chez les Aztèques, à l'époque précolombienne, et puis au moment où justement le passage s'est opéré entre Aztlán, le pays des Aztèques, au moment... Colomb n'était pas encore arrivé, et justement l'arrivée, et puis très très vite, il y a eu une adaptation. Enfin, en l'espace de 50 ans, la question était pratiquement réglée, pour essayer de voir quelle était la particularité de ce monde occidental, de cette vision occidentale. Et ce dont on vient de parler, cette modernité, est le propre de l'Occident, et ce qui lui est rattaché aussi de négatif, lui est largement propre aussi. Par exemple, l'idée même de conquête, de colonisation, parce que ça part d'une réflexion sur l'espace. Le point de départ, c'est la transformation d'un espace ouvert, qui n'est pas encore connoté, qui n'est pas encore cartographié, etc., en un espace qui se referme progressivement et qui est transformé en lieu. Donc ça, c'est une mécanique vraiment occidentale, si on voit ce qui se passe par exemple en Chine, qui pour moi reste quand même un repère extrêmement précieux. Suffisamment prestigieux pour tenir tête à l'histoire occidentale sans grande difficulté, on s'aperçoit que la culture et l'histoire chinoise fonctionnent sans, bien que je ne sois pas spécialiste, mais il fallait avoir cette curiosité, puis peut-être cette modestie aussi de ne pas en savoir trop, mais d'en savoir un peu plus que rien. On se rend compte qu'en Chine, le mécanisme est complètement différent. L'idée même de colonisation n'est pas propre à la Chine. Elle n'est pas propre au Japon non plus. Ça n'est pas du tout une pratique extrême-orientale. Si on regarde ailleurs, on se rend compte qu'elle n'est pas non plus le propre des cultures africaines, ou des Aztèques, etc., etc. Là, l'idée de conquête, l'idée de colonisation est encore une fois propre à l'Occident et propre à la modernité. Et je ne suis pas le seul à le dire, la modernité occidentale se développe en même temps que l'idée de conquête et de colonisation. C'est-à-dire que la modernité se construit sur la fermeture, la clôture de l'espace, sa transformation en lieu. Le lieu qui est donc le produit à l'heure de d'une conquête et d'une colonisation. C'est quelque chose qu'on maîtrise.
Oui, et à partir de là, vous dites que suite à cette fin de la modernité, la postmodernité envisage le monde comme étant finalement la possibilité de plusieurs scénarios possibles, de plusieurs fictions possibles.
Oui.
Donc, d'où le terme des mondes possibles.
Oui.
Et que vous, ensuite, vous dépassez pour parler des mondes plausibles. Donc, ça m'intéresserait beaucoup que vous parliez un peu des mondes plausibles.
Alors, il y a une part de jeu de mots dans l'affaire, parce que pour tout vous dire, je cherchais l'épithète qui pouvait convenir à mon monde. qui ne pouvait pas être un monde unitaire, parce que le monde unitaire est là encore rattaché à la modernité. La modernité essayait de construire le monde. Le monde à l'image de son propre Dieu, etc. Inversement, le post-moderne a vu se développer une théorie des mondes possibles où... le monde de référence, le monde qui serait le nôtre, serait une des représentations possibles d'un de plusieurs mondes parmi d'autres. Et après tout, le monde de Don Quichotte ne serait pas plus ou moins réel que le monde dans lequel nous pensons vivre, qui n'est effectivement que dans la représentation. Quand je parle de ça à mes étudiants, je dis simplement qu'il y a une limite, c'est de ne pas taper de la tête contre un mur pour remarquer que le mur est là, mais grosso, à part ce genre de limite, on est dans la représentation. Qu'est-ce que le réel? C'est bien la question. Alors, est-il possible d'arriver à une espèce de moyen terme, de compromis sur un monde qui ne serait plus le monde unitaire du moderne, donc un modèle unique, divin et Dieu, la dissémination des mondes, la fragmentation extrême, à peu près incontrôlable du monde postmoderne. Bon, on pourrait imaginer. Alors justement, j'ai longuement réfléchi, ça n'a pas été facile. Et quelqu'un a prononcé l'adjectif plausible dans un contexte différent. Plausible, exactement, c'est bien parce que ça n'engage pas à grand chose, ça pourrait à peu près tenir debout, mais bon, après tout, pas plus que ça. Et puis, il y a un autre élément intéressant dans le plausible, c'est l'étymologie, parce que bon, plausible, que ça sonne bien, plausible, possible, bon. Pour quelqu'un qui gravite autour de tout ce qui est littéraire, postmoderne, etc., bon, plausible, évidemment, ça renvoie à bon possible. Mais plausible en soi, ça a plusieurs sens. Puis je parle italien, donc en italien, l'italien entretient une relation plus étroite avec le latin que le français. Le plausible, plausibile, c'est quelque chose que l'on peut applaudir, plaudere. En italien, c'est comme d'ailleurs en latin, c'est l'italien simplement est resté, a repris le latin. En français aussi, applaudir, on a la même racine. Mais en italien, plaudere, c'est applaudir. Donc le monde plausible est un monde qu'on peut applaudir. Mais alors la question est de savoir quelle est la nature de l'applaudissement. Bon, chez moi, il y a un petit côté ironique, l'applaudissement en question. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Comme disait l'autre, beau marché. Donc voilà. J'en parle dans l'introduction. Il y a un autre passage en littérature qui a été remarqué par un autre auteur de minuit bien plus prestigieux que moi, c'est Clément Rosset, le philosophe, et qui a repéré au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, donc un des monuments de la littérature britannique, Un tout petit passage, donc le consul, vous avez vu le film de Houston ou lu le livre de Laurie, le consul est tout le temps ivre, bon il est au Mexique, il est ivre, il marche comme il peut, il suit une ligne un petit peu oscillante comme un ivrogne. Et donc il avance « as somehow, anyhow ». Ça c'est une expression extraordinaire qui est absolument intraduisible. C'est intraduisible, donc on pourra chercher longtemps. J'ai regardé dans la, justement dans la traduction française, on sentait bien que le traducteur était, savait pas comment faire. D'une certaine manière, mais d'une certaine manière quand même, quoi, grosso modo. Voilà comment progresse le consul de Malcolm Lowry. Bon, c'est un petit peu le même, la même idée, quoi. Bon, c'est pas rigolo. Hein. C'est « somehow, anyhow », d'une certaine manière quand même, quoi, voilà. Et ça renvoie également au titre du monde plausible. Il n'y aurait plus qu'à applaudir le consul qui avance quand même, malgré tout, quoi, mais enfin, comme il peut.
Un aspect aussi assez intéressant que moi j'ai relevé, c'est notamment que vous parlez de l'Espagne, et vous dites qu'à l'époque de ces conquêtes américaines au XVIIIe siècle, l'Espagne, en tout cas à cette époque-là, l'Espagne entretenait une grande proximité sémantique entre la carte et l'espace abstrait. Mmh. Et que donc la géographie réelle s'effaçait au profit d'une géographie symbolique. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre encore qu'à l'époque, on n'est pas dans une représentation exacte du monde,
non.
Et que ça se traduit jusque dans le langage, et que donc il n'existe pas en fait de termes pour désigner cet espace réel, mais les termes les plus approchants seraient des termes chargés d'une symbolique.
Oui, alors il y a plusieurs choses parce que tout à l'heure. Avant le début, on parle également de l'horizon. Il y a plusieurs termes comme ça, géographiques, qui sont apparus très tardivement. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. L'horizon apparaît vers 1250 dans le vocabulaire, à se demander ce que faisaient les gens là, en bord de mer. C'est vrai qu'on n'allait pas à la plage, on allait à la plage, mais pas pour zoer au soleil, parce qu'en plus, c'était insalubre, c'est tout ce qu'on voulait, c'était pas intéressant, les plages. Les plages tropicales, enfin même les plages chaudes de la Méditerranée sont entrées dans les mœurs dans les années 1920, hein, pas plus tôt.
Encore, j'allais dire, les monstres qui sortaient.
Oui, mais surtout des petits monstres ailés, les moustiques avec les maladies que ça... c'est le palu, hein, c'est la peur du palu, c'est la peur des monstres, d'autres monstres, les pirates, c'est ce genre de choses. Le contact à la mer est...
La mer est peuplée de monstres.
Oui, de monstres en tout genre. Et puis de monstres vraiment dans l'apocalypse de Jean, il y a la mer est associée aux monstres. Je crois que c'est chez Virgile, le paradis, c'est pouvoir se déplacer sans avoir à emprunter la mer. Donc c'est ça l'idée. Alors, on comprend du coup pourquoi ces termes spatiaux sont tellement tardifs. L'horizon, vraiment, en tant que est un mot scientifique qui apparaît vers 1250, et le premier à l'utiliser, c'est Dante, dans le Purgatoire, qui l'utilise, mais qui, en tant que personnage, ne le regarde pas. À un moment, Dante se retrouve sur la plage de l'île du Purgatoire. Vous savez que l'île du Purgatoire est surmontée par le mont. Avec la célèbre progression toujours circulaire, on descend d'abord les cercles de l'enfer, puis hops, et on remonte ensuite la montagne du Purgatoire, au sommet de laquelle se trouve le paradis terrestre. Puis après, on arrive dans l'éther, c'est le paradis céleste. Donc toujours... Dante, donc, à un moment, se retrouve sur la plage du Purgatoire, aux antipodes. Imaginez le premier homme de l'autre côté. Enfin, c'est quand même... vous êtes sur la Lune et vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. C'est exactement ça. Donc, il utilise le terme horizon, mais en tant que personnage, ne le regarde pas. Au XVIe siècle, il y a un sonnet de Ronsard, au XVIe siècle, vers 1550, Ronsard... dans un sonnet, utilise le terme d'horizon, note en bas de page de son commentateur pour expliquer ce que c'est. C'est fou, ça. Je veux dire, aujourd'hui, l'idée de l'île est venue pratiquement à la plage. Ou l'idée de... Oui, puis on regarde, et puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Puis je me suis dit, Christophe Colomb, j'étais sur Palos de la Frontera, sur la plage du départ. À un moment, j'ai suivi des endroits où il y a des statues de Christophe Colomb, à Barcelone, à Palos de la Frontera, donc en Andalousie, près de Huelva. Puis après, on la retrouve à l'arrivée, évidemment, à New York, la statue. Mais là, pareil, dans tous les films là, qui ont commémoré le cinquième centenaire de l'Amérique, de la découverte, si vous voulez, pas pour faire simple, mais il y en a combien qui étaient en Amérique avant Colomb? Il y a plein d'Indiens qui étaient là avant lui. Dans tous les films, Colomb, à un moment, se retrouve à la plage et regarde l'horizon. En fait, oui. Sauf que le vrai Colomb, pratiquement, le terme horizon, ne peut pas le connaître, pas vérifier, mais je ne pense pas qu'il l'utilise. Et puis, il y a peu de probabilités qu'il regarde la mer. C'est-à-dire, il prend le bateau, puis en avant, puis terminé. Donc, l'espace, pareil, là, le terme espace est apparu très, très tardivement dans le vocabulaire, dans les langues néo-latines ou en anglais. Avec des sens variables d'une langue à l'autre aussi. Je me suis amusé à réfléchir au space. Espace, au départ, est un terme temporel qu'on retrouve en français dans l'espace d'un moment. C'est ça, l'espace, au début, c'est un laps de temps. La spatialisation de l'espace est quelque chose d'extrêmement tardif. Là encore, c'est vers le XVIe siècle qu'on commence, et puis au XVIIe siècle, ça y est, je crois que c'est chez Descartes qu'on retrouve un espace au sens spatial du terme. À Paris, il y aura l'espace au-dessus, quoi, les fusées, etc., mais encore un peu plus tard, mais toujours au XVIIe. Avant, c'était un mot technique qui ne servait strictement à rien. Et juste pour finir, et là on revient à vos travaux, la carte également, MAPA, tout ça, ça renvoie à du tissu. La carte, au début, c'est quelque chose d'extrêmement matériel, donc on revient pratiquement à l'idée de représentation. Là, c'est le contraire, c'est pas abstrait du tout, c'est extrêmement, extrêmement concret. Donc il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est très abstrait et très tardif, ou alors extrêmement concret, c'est le tissu, c'est le matériau, le drap, quoi, ou ce genre de choses, enfin le matériau.
C'est concret, mais ça renvoie à des géographies qui sont, jusqu'à très récemment, fantasmées aussi.
Bah,
pour un certain nombre de...
Oui.
En tout cas, pour tout ce qui n'est pas...
Oui, fantasmées jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les découvertes se font progressivement, les cartes se remplissent progressivement. Et donc, il y a le connu qui gagne progressivement, et l'inconnu, lui, effectivement, est fantasmé, mais représenté. C'est-à-dire qu'il y a une représentation de ce qu'on ne connaît pas. Donc, effectivement, c'est du fantasme. Là aussi, il y a un truc intéressant pour... on en revient encore une fois à vos œuvres. C'est que la tache blanche sur la carte est quelque chose qui apparaît, si mes souvenirs sont bons, à la fin du XVIIIe siècle. Et surtout au XIXe siècle. Avant ce moment-là, il n'y a pas de tache blanche. Il y a du blanc. Les bordures peuvent être estompées comme ça. Mais il n'y a pas de tache blanche. On ne reconnaît pas le vide. Et c'est à partir du moment où on conçoit... la possibilité de remplir, de saturer la carte du monde, qu'on va commencer à placer des blancs, parce que ces blancs seront les cibles. C'est les derniers trucs à remplir. Là, il faut aller là.
Oui, vous dites cette phrase très belle, vous dites signaler le vide, c'est commencer à le remplir. C'est la blanche, déjà, c'est une mission en soi. C'est ça.
Parce qu'on n'est pas très modeste. Tant que les choses sont hors de portée, on les cache, on les dissimule. À partir du moment où on se rend compte que un dernier petit effort, un dernier coup de rein permettra justement d'arriver au résultat, d'aboutir, à ce moment-là, on peut tirer le voile pour justement montrer ce qu'il reste à faire, sachant que c'est vraiment à portée concrètement.
Pour revenir justement à ces termes utilisés, il y a cette idée que dans les langues médiévales, on ne disposait pas de mots propres pour exprimer le concept de l'espace, mais qu'il y avait deux pistes. L'une, c'était le locus, donc le lieu, et l'autre, platea, la place. Et c'est assez intéressant parce que donc, la sculpture qu'on voit là à l'entrée de Laurent et Cyril Berger s'appelle locus.
Notus loci,
qui est une sorte de jeu de mots justement sur
le génie du lieu.
Le génie du lieu.
Puisque, en fait, Notus, c'est un des vents qui traverse le Limousin, etc. Donc on a pris ça. Aussi parce que Projet travaille sur, finalement, le vide. On fait un vide dans un bâtiment. Donc la sculpture montre ce vide-là, en fait. Et donc ce vent qui passe.
Mais qui est une forme de spatialisation aussi.
Oui, bien sûr.
Le vent est invisible, mais il spatialise quelque chose. Donc ça n'est pas tout à fait un vide.
Non, juste, enfin, par rapport justement à la modernité, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que le vide en fait n'est pas vide, et justement dans des, avec les outils tout simplement, les connaissances scientifiques, comme ça, on s'aperçoit qu'en fait le vide est forcément chargé d'énormément de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, effectivement, le vide n'est effectivement pas un vide, et c'est clairement, enfin, le courant d'air devient, enfin, est très, finalement très concret comme ça.
Là on est dans le chinois pur. C'est la conception taoïste du monde, en fait. Hein. Alors, je connais très mal, je suis vraiment néophyte, je suis plein de bonne volonté. Mais là, il y a de quoi creuser, effectivement. C'est le courant d'énergie vitale entre les montagnes.
Non, pas du tout. Non. Je pense que on a tout simplement perçu que le vide est chargé ou d'humidité ou d'onde. Enfin, c'est une matière. C'est pas
comme
juste
une matière, au fond.
C'est pas l'absence de matière, c'est une matière qui commence à être identifiée et quantifiée. Et donc, ça, effectivement, c'est vraiment, du coup, lié à la modernité. Quoi. Cette manière de pouvoir. Enfin, après, cette manière de dissocier, en fait, les éléments du réel, c'est un moment de les pouvoir les séparer, et donc c'est de les disséquer dans un rapport comme ça, des chaînes microscopiques, ça c'est vraiment justement lié à la modernité. Enfin, et dissocier les éléments pour ensuite recomposer un moment justement avec certains de ces éléments. Donc, c'est un moment où finalement, ce mot vide finalement n'incarne plus le sens qu'il avait auparavant, parce que ce vide est effectivement pas vide. Quoi.
Non, oui, c'est du
donc
concentré.
On n'est pas dans du.
Oui, c'est du concentré d'énergie. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, et puis vous, dans votre travail, puisque là, on parle plus d'une approche architecturale, puisque certes, c'est une sculpture telle qu'elle est présentée ici, mais cette sculpture donc, fait référence à une maquette qui elle-même fait référence donc, à ce projet d'architecture sur lequel vous travaillez, qui est l'extension du centre d'art de Vassivière, et qui donc a une fonction aussi. L'individu à sa place, quoi. Donc ce vide aussi est lié malgré tout à une corporalité, à un rapport kinésique, on va dire, entre ce courant d'air et cette présence humaine, hein, qui en l'occurrence est vraiment liée au quotidien, puisqu'il s'agit d'espaces d'habitation, en tout cas de lieux de résidence pour les artistes. Hein. Moi, ça m'intéresserait que.
Dans le projet, à la fois, il peut emprunter les codes d'une modernité, puisqu'effectivement, on est sur ce langage d'un white cube. Enfin,
donc, peut-être pouvoir préciser un peu ce que c'est le projet. Juste rapidement, c'est que l'extension du centre d'art de Vassivière, il y a un bâtiment sur une île, comme ça, une île artificielle, dessinée par Aldo Rossi. Et à côté, attenant, il y a un petit château qui est resté, qui est le seul objet resté dans cette vallée qui a été complètement immergée par EDF pour faire un barrage électrique. Et donc dans ce château, il y a une politique à la fois d'État et de la région de vouloir faire un lieu de résidence pour les artistes qui serait en même temps, en parallèle, en programme avec le centre d'art. Et donc l'intervention qu'on a pu faire, c'était de travailler sur un bâtiment ancien finalement. Et c'est ce petit château qui est un peu de composite de différents genres, différentes histoires. Et évidemment, c'était de proposer un espace dans lequel particulièrement allait se faire le travail des artistes, qui allait articuler l'ensemble des programmes du projet d'architecture. Puisqu'en fait, il faut, la résidence, c'est trois logements, un restaurant, et on a proposé cet atelier qui allait traverser le bâtiment. Et comme le grand courant d'air, on ouvrait réellement le bâtiment, on la perforait complètement. C'est pas très apparent de l'extérieur, il y a juste une ouverture en bas, à un endroit, et une ouverture qu'on peut voir si on volait au-dessus. Donc c'est vraiment donc de ces deux ouvertures sont les deux extrémités de l'atelier, de cette perforation.
Mais ouais, non, bah, du coup, en fait, par rapport à si on peut vraiment raconter ou accrocher comme ça ce projet à l'idée de la modernité, effectivement, la modernité, enfin, alors, donc, si on parle maintenant d'espace et d'architecture, effectivement, enfin, la modernité, c'est à dans le long de son histoire, à tenter justement d'ouvrir les portes, enfin, d'ouvrir les. C'est-à-dire que le projet de Corbusier était. Était de. Enfin, finalement, le concept de plan libre, il est. Ce qui est intéressant, c'est qu'on. On peut s'interroger sur le fait que ce concept a été imaginé au préalable, avant l'invention de ces techniques qui sont à ce moment-là le béton armé. Ou est-ce que le béton armé, finalement, a été un préalable à un potentiel d'imagination, c'est-à-dire que le concept de plan libre est Donc il y a cette tension entre une évolution technologique et puis ce que ces évolutions technologiques peuvent porter comme une nouvelle création ou invention spatiale, quoi, et donc conceptuelle même. Alors, donc le projet, effectivement, il est dans ce château qui, finalement, est lui partitionné, avec des ruptures, quoi, c'est-à-dire qu'on est. C'est pas un très vieux château, mais enfin, il est suffisamment ancien pour s'inscrire dans un langage qui n'est clairement pas moderne. Et donc, effectivement, il y a cette contradiction où nous, on s'est attaché à créer un seul espace affranchi de rupture, quoi. C'est-à-dire que c'est un grand tube qui n'a aucune cloison. Enfin, et donc, les seules ruptures entre l'extérieur, à l'entrée et à la sortie de ce tube, sont juste les portes qui finalement se. Qui raconte finalement un rapport très très concret à l'architecture qui est de ce lieu, de se protéger du climat ambiant, quoi. Et effectivement, une des pièces comme ça un peu importante de ce tube, c'est ce qui semble en même temps raconter, je crois vraiment, ce rapport à la modernité, c'est une rupture une ambiguïté ou un mélange, une porosité entre ce qui serait de l'ordre du dehors et du dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est ce à quoi s'est attaché toute l'histoire de la modernité, et ce qu'on a essayé de nous-mêmes aussi de tester, travailler à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a une partie effectivement du château qui est à l'extérieur et on est à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une sorte de patio recréé dans une sorte de donjon un peu comme ça, et donc en fait, je crois que c'est ce qu'on essaie de effectivement, enfin, ce qui nous intéresse nous, cette manière de produire, effectivement, de rendre compte en fait de cette ambiguïté qui, je crois, la modernité, d'une confusion entre, en l'occurrence par rapport à les questions spatiales, une confusion et une porosité entre ce qui est très difficile maintenant de définir de ce qu'est l'intérieur et l'extérieur.
Oui. De même point de vue, j'avais essayé de voir, et ça rejoint tout à fait cette idée-là, parce que ça aussi, c'est au début de la modernité, j'avais essayé de voir aussi le moment où on passe d'un espace connu à un espace inconnu. Il y a ce passage, justement, entre le dedans, si on veut, et le dedans du connu et le dehors de l'inconnu. On le retrouve en littérature aussi très souvent. Ça rejoint l'architecture, ça m'amène que je ne risque pas de développer, puisque c'est ça. Il y a eu des regards comme ça en littérature, surtout dans les grandes épopées. Il y en a quelques-uns que j'avais essayé de répertorier. Par exemple, Jason et les Argonautes, à un moment, franchissent le Bosphore, à un moment où le Bosphore, justement, est encore un monstre. Donc il y a toute une série de ruses. Bon, je passe, c'est très beau d'ailleurs. On ruse avec les mâchoires qui se referment sur les bateaux. Bon, on réussit à passer. Je passe Non, même si c'est joli, il y a la couleur. Enfin, bon, c'est pas très écologique. les Grecs à l'époque, c'était pas vraiment ça. Même si écologie est un mot grec, mais bon, enfin, mais peu utilisé probablement par les Grecs. Et donc, alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est j'ai franchi l'obstacle, je suis de l'autre côté, et là, il y a un moment de d'éblouissement, mais au sens pas forcément. À la fois positif et négatif du terme. C'est la douleur de l'éblouissement aussi. Ouais. C'est j'ai réussi à échapper à la mort, mais je me retrouve face à un inconnu complet. C'est-à-dire, je suis sorti. C'est le seuil entre le dedans et le dehors. On le retrouve, Christophe Colomb aurait pu rendre compte de la même chose, puisque, il arrive dans quelque chose de complètement nouveau, quoi. Enfin, qui pour lui n'est pas vraiment nouveau, c'est l'Extrême-Orient. mais qui théoriquement devrait être nouveau. Donc il y a ce moment où il y a ce basculement. Et dans l'architecture, vous en parliez, là en citant Le Corbusier, il y a aussi Mies van der Rohe, des architectes comme ça, on a l'impression qu'on a une espèce de mise en scène de ce passage très précis, où on passe du dedans vers le dehors, mais après il faut que ce dehors redevienne un dedans. Bon, moi j'ai traduit ça en termes, je veux dire, l'espace en tant que couverture doit être refermé sur un lieu. On peut parler de dedans, de dehors aussi, on pourrait varier, enfin faire des variations sur le thème et sur le vocabulaire. Et en architecture, on retrouve cette idée, effectivement, peut-être le modernisme abouti, enfin l'espèce de quintessence du modernisme que représentent Le Corbusier et Mies van der Rohe, sont un petit peu là-dedans, sont dans la mise en scène de...
Non, c'est effectivement ça, c'est étrange. Il y a une quintessence de la modernité qui serait la cuisine de Francfort. Enfin, dans la modernité telle que vous l'avez décrite, ça serait la modernité qui tente de scanner absolument le monde et finalement d'être dans une sorte de contrôle absolu. Mm-hmm. Donc c'est effectivement, pour rappeler, la cuisine de Francfort, c'est celle qui est dessinée pour un usage monofonctionnel, univoque, et où en fait tout est absolument dessiné selon la dimension du corps et... Et alors effectivement, tout son travail était justement de libérer, mais avec les outils de la modernité, libérer l'espace d'une interprétation univoque. C'est-à-dire que l'idée, c'est tout ce qu'il tente de raconter, c'est qu'une chambre n'est pas une chambre, en tout cas.
Oui, mais tout en le refermant, parce que j'ai pu voir certaines constructions de Mies van der Rohe, une fois qu'on est dedans, tout est complètement... Enfin, dans ce que j'ai vu, j'ai vu le pavillon allemand à Barcelone.
Oui, c'est ça, mais si on prend ce pavillon, c'est quand même l'expression, je crois, totalement inverse de ce qu'est serait la modernité, enfin de la cuisine de Francfort, c'est tout l'inverse. En fait, il n'y a aucune fonction qui y sont déterminées, mais effectivement, il y a encore des résidus, c'est-à-dire
oui. que. Oui, c'est peut-être, la ligne c'est, peut-être la c'est vraiment complètement. Ouais. C'est la carte, quoi.
Ouais.
Non ?
Je
sais pas.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fonction à identifier, quoi, si on veut à un moment résumer ce projet. Donc c'est aussi ça, c'est comment libérer l'espace et laisser par rapport à l'histoire de la littérature. Et quand,
mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, parce qu'à mon avis, justement, vous vous libérez.
Ben moi, je crois qu'on...
Enfin, nous, plutôt une continuité de ça, mais... Enfin,
c'est mais d'un
peu plus... Mais alors, c'est un malentendu, parce que je pense qu'effectivement, Didier Commission d'Euro tentait exactement... Enfin, en l'occurrence, ce projet est fondamental dans ce désir-là. Alors peut-être que les années passant, on a l'impression de... Effectivement, c'est quelque chose même presque galvaudé. Enfin, ça a été tellement pillé ensuite... On ne se rend pas compte de la très très forte modernité de cette œuvre qui raconte que justement il n'y a plus vraiment d'intérieur et d'extérieur et au-delà de ça il n'y a plus vraiment de fonction affectée à tel ou tel espace. Donc, en fait,
Oui, mais ce que j'essaie, c'est qu'il y a une ambiguïté. Je veux dire, effectivement, on voit bien qu'il y a une tentative de dépassement du clivage entre intérieur et extérieur, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment à l'intérieur. Je veux dire, il y a des lignes absolument droites, il n'y a aucune possibilité. Je ne sais pas si je devais. Placer du mobilier, puis bon, il a lui-même imaginé le mobilier qui allait avec. Il y a des angles droits. C'est parfaitement rationnel. J'ai en tête, alors je sais pas, je suis pas architecte, donc...
La rationalité n'est pas du tout forcément... Enfin, je veux dire, la manière de pouvoir se libérer effectivement de ce rapport monofonctionnel, enfin fonctionnel, puisqu'en fait il y a toute une histoire de la modernité qui était la critique justement du fonctionnalisme, puisqu'en gros, ce qu'on constatait, c'est qu'énormément de bâtiments ne pouvaient pas voir les usages évoluer. Enfin, donc il y a aussi toute une histoire antérieure d'énormes édifices qui avaient cette capacité à être totalement réhabilité, enfin dans le sens, pas dans le sens actuel du mot réhabilité qui envoie vraiment tout un truc de patrimoine, mais enfin l'idée vraiment que des édifices pouvaient voir leurs usages complètement transformés. Alors ça, ça a été forcément complètement invalidé avec une partie de la modernité qui tentait effectivement de répondre, la machine qui répond comme ça à des usages très très précis, mais encore une fois, du coup. j'en reviens juste, juste pour dire qu'effectivement, peut-être que c'est la limite aussi de, ce, de cette... Je crois qu'effectivement, cette modernité-là, peut-être c'est confronté à cette limite de l'intérieur et l'extérieur, qui à un moment, voilà, il y a cette limite, effectivement, qui est d'autant plus forte encore maintenant, de climatique, et qu'effectivement, il y a une interruption. Finalement, ce fantasme d'un territoire ininterrompu trouve d'autant plus sa limite, une fois qu'on est... il y a une limite à ça. Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est intéressant quand vous dites que vous libérez les espaces, parce que malgré tout, alors peut-être moins... peut-être moins
mais
sur
vous
la...
aimez bien Miss Van der Rohe, c'est ça.
C'est compliqué comme architecte de dire on aime bien Miss Van der Rohe, mais c'est évident que si on le regarde avec beaucoup de regard critique, on s'aperçoit que c'est à quel point c'était extrêmement fort.
Mais au-delà de la résolution architecturale, on va dire, de là où vous êtes dans votre travail architectural, c'est vrai que sur un travail comme l'astre blanc, par exemple, ou même la carte, il y a quand même cette idée de libérer les espaces, notamment l'astre blanc, c'est un peu ce dont vous parlez d'ailleurs dans le texte que vous avez écrit, le bloc blanc, les évidences trompées, c'est un texte écrit en lien avec cette œuvre. Là, il y a vraiment une volonté, au contraire,
moins libérer les espaces que même libérer l'interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, le globe se donne avec...
De toute façon,
le globe, on spécule sur une information qu'on met en forme, qui serait cette nouvelle morphologie. Bon, donc on est parti finalement, c'était presque un prétexte pour ne formaliser qu'une information. Donc il y avait aussi cette idée de la modernité où on ne prend qu'un certain nombre d'éléments. Là, effectivement, alors c'était marrant parce qu'on comprend, c'est intéressant à la map monde d'ailleurs, c'est ce qui est qualifié la map monde, c'est vraiment l'identification au préalable de deux hémisphères. C'est déjà une radicale perception du globe. Donc c'était aussi une manière, je crois que c'est aussi des qualités fondamentales dont on s'est affranchi sur cette pièce. Mais effectivement, alors juste pour revenir comme ça sur la modernité, pas que l'architecture, effectivement, je crois que Miss Van der Rohe tente de libérer l'architecture comme dans le nouveau roman, des gens comme Rob Grier ont tenté de libérer l'interprétation. C'est-à-dire que c'est une partie de la modernité, et je pense qu'ils sont dans cette même logique de laisser libre l'usager de créer sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on donne effectivement. Les lignes sont très droites, mais si elles ne sont pas droites, il n'y a rien, vraiment, il n'y a plus rien. Mais je crois qu'à un moment, il y a des éléments forts, et pour laisser d'autant plus liberté ou au lecteur, pour le roman, ou à l'usager pour cette modernité-là, de créer tout simplement sa propre. Son propre fonctionnement et sa propre imagination.
Oui, donc le globe, c'est s'affranchir. On sait pas. C'est parti du principe que c'était s'affranchir de toute représentation traditionnelle de la sphère pour finalement arriver à une seule information. Le volume sur lequel on vit n'est pas une espèce de sphère minimale comme ça, mais plutôt apparemment une forme qui semblerait plutôt patatoïdale.
C'est de la pataphysique en fait.
Exactement. Et puis voilà, de s'extraire de toute hiérarchie traditionnelle, de nord-sud, est-ouest, d'hémisphère, de cartographie, de géographie, de géopolitique, et de tirer une essence, une seule formation qui serait celle de. On n'est pas sur un monde minimal.
Mais ce qu'on retrouve aussi dans la série de photos, de cette perspective des jardins de l'autre à Versailles. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même des liens aussi, puisque là il y a une volonté aussi de renverser les repères du haut et du bas, de la droite et de la gauche, à travers comme ça ce canon du classicisme qui donc pose la question de la perspective comme étant en l'occurrence très centrale.
Avec un centre vide.
Oui, voilà. Et alors que là, le centre, oui, effectivement, a été enlevé. Donc, d'une certaine manière, ça, tous les points de repère, tout ce vers quoi cette image et cette architecture tend ont été complètement retournés, malmenés et contrariés.
Bon, il y a un jeu de mots. Alors, c'est parce que c'est une fonction. En anglais, on dit que le point de fuite, c'est le vanishing point. Vanishing Point, ça a comme ça deux sens. C'est le point de, voilà, le point de fuite, mais c'est aussi le point de disparition. Donc il y avait comme ça ce jeu de voir comment cette image qui est calée sur un lieu comme ça iconique, elle pouvait tenir en retirant ce point de fuite, en le faisant disparaître aussi, mais concrètement, physiquement, avec la même matière. Parce que, enfin, ce qui traverse aussi beaucoup l'exposition, c'est la question de la matière. On aime, voilà, il y a aussi comme ça un travail sur le transfert de matière. Donc en l'occurrence, c'est vraiment là, vraiment retirer la matière même du support photographique en l'extrayant et en jouant avec cette perspective. Et puis de la question de l'image.
Et vous disiez que le globe blanc donc, était sujet à toutes les interprétations possibles et imaginables.
Oui. Je vous disais tout à l'heure que ça évoque un petit peu un test de Rorschach, mais inversé, parce que généralement c'est des figures noires sur fond blanc. Là, c'est une figure blanche sur fond à déterminer. Ouais. Et c'est vrai que ça inspire. Je pense que chacun a sa propre interprétation. Mais je me suis rendu compte en écrivant le texte que les interprétations étaient pratiquement infinies. Enfin, bah, pour une même personne, bon, j'ai
hésité. Ça, c'était presque abyssal le niveau d'interprétation que vous aviez produit. Enfin, nous, on n'avait pas pensé bien sûr à tout ça, mais on était comme ça sur un point de départ.
Mais parce que par hasard, en fait, nos travaux se rejoignent à plein d'endroits. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que là aussi, l'idée du jardin de Versailles avec la photo inversée, le centre vide, etc. Enfin, c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait inspirer toute une série de commentaires. Mais bon, là, il y en a quelques-unes. Je sais pas, j'ai essayé de ne pas donner complètement dans l'apocalyptique parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Hein. On remarque que ce qui est paradisiaque est porté à l'extrême devient apocalyptique. C'est ça qui est. C'est l'art de la mesure. Ouais. La plage de sable blanc est paradisiaque. Une vaste plage de sable blanc sans océan en face. Devient absolument infernal.
Vous parlez aussi du film La Route, c'est ça ?
Oui, ou le livre de Cormac McCarthy, ouais, The Road,
ouais,
La Route.
Mais qui, dans le film, du coup, est rendu très visible, c'est ce monde, oui, qui est recouvert de ce sang, et qui est devenu. Et oui. Donc, La Blancheur, c'est aussi.
Oui. Je n'ai pas vu le film, j'ai le DVD à la maison, je ne l'ai pas regardé volontairement pour éviter de me faire. Oui, mais justement, pour voir ce que pouvait, parce que c'est pareil, c'est face au livre, le lecteur construit des paysages. Le cinéma, lui, en construit un que le spectateur peut encore continuer à interpréter, d'ailleurs. Le cinéma n'est pas univoque, mais il est moins plurivoque.
Très orienté,
voilà, il est plus orienté, moins plurivoque, en tout cas, que le livre. Et donc, effectivement, il y a un paysage blanc, je pense, également, dans le film, non ?
Non.
Non, je ne sais pas.
Là, je sais pas trop.
Disons que c'est gris.
Oui, gris, enfin gris-blanc, quoi. C'est jamais.
Mais c'est pas aussi.
C'est pas la sombre noire.
C'est pas New York, les tours qui s'effondrent. C'est pas.
Là, il y a une cendre blanche. Bon, déjà parce qu'il y a on a tous les images en tête de ces tours qui s'écroulent avec des feuilles blanches qui flottent dans l'air un petit peu partout, puis les cendres qui blanchissent aussi. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, maintenant c'est pareil.
Mais le film n'est pas comme ça.
Le livre, je pense, donne à penser, ne serait-ce que parce qu'il y a un cadre glacial, voire glaciaire, enfin, comme dans beaucoup d'apocalypses nucléaires, le soleil est voilé, donc il commence à faire très froid. Et en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue en lisant.
Le monde blanc, c'est un monde où l'humanité est en train de disparaître, ou a disparu, ou est en.
Oui, oui. Mais ça, c'est la vision apocalyptique. Il y a un moment où il faut essayer de passer à autre chose aussi, parce que c'est vrai que le premier. Enfin, je sais pas, c'est le mien. Pourtant, je suis pas apocalyptique, je suis pas branché science-fiction, pour tout dire. Donc, bon, j'avais lu McCarthy parce que j'ai lu les autres livres de McCarthy aussi, qui est un auteur monumental. Mais c'est vrai que les premiers réflexes, c'est l'absence d'eau, c'est l'absence de vie, etc. Mais bon, si on adopte un point de vue très matériel, si on adopte un point de vue plus symbolique, eh bien, là, au contraire, ça sera une libération. C'est l'espace, pour reprendre Deleuze dont il était question, c'est l'espace lisse qui peut être justement réinterprété au goût de chacun. C'est sans doute ça que vous aviez. Je ne sais pas, quelle est votre... Je ne sais pas si vous avez une interprétation.
Je pense que la planète blanche, c'est plus, moins l'idée d'un rapport catastrophiste que plutôt d'un potentiel de l'homme à imaginer, enfin, à l'homme à créer. Ce n'est pas tant l'homme tel qu'il est que qu'un potentiel à, justement d'une page blanche. Quoi. C'est plus la page blanche. Quoi.
Oui, c'est ça. Et
l'invention en potentiel. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça qu'un rapport apocalyptique. Quoi.
J'aurais souhaité le montrer, enfin, bon, il y a une question de timing, mais de montrer le globe, justement, aux étudiants pour voir à quoi ils l'associaient. Parce que quand on parle, on voit à peu près où ça va. C'est déjà orienté parce que vous avez lu le livre, donc vous attendez de ma part une certaine interprétation qui sera plutôt géographique. C'est ce que je supposais, en tout cas. Voilà, et puis je sais que... Bon, enfin, donc il y a une espèce de... notre discours, notre propos est orienté dès le départ. Maintenant, pour des étudiants qui voient l'objet, dans mon cas précis, mais les spectateurs, évidemment, il y a d'autres interprétations possibles. Et puis, comme je disais, le premier réflexe, c'était la maternité. Ça, c'était vraiment le premier réflexe, qui n'était pas du tout venu à l'esprit. Mais parce que, effectivement, on avait un discours connoté, qui n'allait pas dans le sens de la maternité.
Non, c'est ça.
Et alors justement sur la question des mondes plausibles, puisque je trouve qu'une pièce par exemple comme le parquet de la civière, donc qui est le parquet, l'œuvre posée au sol là-bas, ce que moi je trouve assez intéressant, c'est qu'on part d'un monde qui d'une certaine manière est un monde enfoui, englouti, un monde qui a disparu, un monde qui finalement n'existe plus que par la mémoire que les habitants encore ont de cet moment. Donc l'acte de la civière qui a recouvré tout ça, parce que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cette pièce, donc ce parquet a été constitué ici avec un bois qui est issu de souches qui étaient extraites du lac de la civière, donc qui est le lac dont on parlait, qui est ce lac artificiel créé dans les années 50 à la civière. Et donc voilà, donc il reste...
En creuse,
oui.
Parce que je ne sais pas si tu demandes si tu vas si bien.
Ah, mais franchement, avec la Haute-Vienne.
C'est vrai. En fait,
ouais, voilà,
j'ai
le
croisé du Limousin.
J'ai eu
le débat
sur la
question. Si, en fait, c'est bon.
Tout le monde est là-bas.
C'est ça, voilà.
Merci de remettre.
Et la Corrèze, non?
C'est ça.
C'est pratiquement...
C'est pour ça que c'est un enjeu politique à ce moment-là.
En tout cas, voilà, ce qui est très beau dans cette région, c'est que manifestement, c'est une région où la résistance, en tout cas, a été très forte à la Seconde Guerre mondiale. Mais il semblerait que ce soit un état d'esprit assez persistant, quoi, et que on retrouve quand même chez les habitants, et notamment les vieux, cet esprit de résistance. Enfin, c'était quelqu'un qui disait en rigolant, mais il croit toujours que c'est la Seconde Guerre mondiale, que la guerre n'a pas arrêté, ils sont toujours en résistance. Donc voilà, mais donc je raconte ça parce que c'est vrai que d'une certaine manière, cette matière végétale qui a été enfouie sous l'eau porte cette mémoire qui va jusque tout de suite après-guerre. Quoi. Et donc cette mémoire qui est enfouie littéralement sous l'eau et tout à coup réémergée pour être exposée dans le monde contemporain, mais exposée avec ses moyens qui sont ceux du monde contemporain, c'est-à-dire la manufacturation d'un objet, et donc toute la chaîne de fabrication de cet état enfoui, de cet état végétal enfoui, à cet état d'objet. Et entre les deux, en utilisant malgré tout des techniques qui sont des techniques certes artisanales, mais qui utilisent des machines, donc, puisque le bois a été réduit en poussière, l'écorce a été réduite en poussière, l'écorce qui était noire, d'où la couleur de ce parquet, et ensuite agglomérée à la résine, etc. Bref, tout ça pour dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette pièce, et aussi par rapport à ce que vous pourriez en dire, c'est ce passage d'un monde enfoui, donc qui renverrait presque... à la représentation d'un monde dans une dimension qui est devenue quasi fantasmée, ou en tout cas fictionnelle, puisque pour la plupart des personnes qui sont là, on n'est pas de cette génération-là, quoi. On ne la connaît, cette histoire, que par les récits qu'on nous en donne. Et donc, la résolution finalement de ce passage de tout à l'heure à aujourd'hui à travers donc, la fabrication de cet objet. Et ce serait deux mondes finalement qui se rencontrent, mais dont deux mondes de deux époques différentes, et donc deux représentations, deux visions possibles du monde. Quoi. Et je trouve que cette œuvre fait aussi le lien à cet endroit-là. Je pense que...
Oui. J'ai pas passé mon temps à rappeler, mais ça me gêne un peu de revenir tout entier.
Non, c'est bien d'articuler quand même.
Oui, oui. C'est l'idée de stratification. C'est-à-dire que alors, c'est dans mes travaux, enfin, mais ça fonctionne parfaitement. De toute façon, à la fin, comme c'est une œuvre d'art bon, qui part de matériaux naturels, c'est ça que je. On retrouve ça en ville, dans l'architecture, c'est-à-dire c'est la coprésence d'époques différentes par le biais d'artefacts. Alors ici, dans votre travail, c'est tout à fait particulier, puisqu'il y a l'artefact, c'est l'objet d'art, mais qui s'appuie sur un vestige naturel, qui lui-même est un artefact, parce que si c'est un vestige, c'est parce que l'homme a coupé les arbres. Donc ce sont des espèces de pilotis, enfin, je sais pas, donc c'est l'idée de stratification, le présent n'est que la dernière couche d'un espace qui se déploie dans la profondeur du temps. Ceci, c'est l'idée que l'espace et le temps ne sont pas séparés, les deux ne peuvent être perçus qu'ensemble. Et là on a un exemple justement... L'espace est souvent perçu comme une surface, comme la superficie, mais en fait l'espace s'appuie, enfin il y a une dimension, une profondeur, c'est pas une surface, c'est vraiment une profondeur. Donc là on a un exemple de très beau, hein, de ces arbres coupés qui affleurent, mais qu'on devine juste en dessous, c'est le vestige végétal qu'après vous avez, sur lequel vous avez travaillé. Et là, il est posé juste au-dessus de la surface du plancher. Il faut le mettre juste en dessous.
Non, c'est vrai que l'idée, c'est de mettre en tension ce rapport comme ça de matériaux. Parce que devenu brut, redevenu pris dans un élément qui est finalement, qui pourrait être naturel, mais qui est devenu, plutôt surnaturel, une chose comme un rapport comme ça de... De matériaux comme ça, et puis de le tendre avec le fait de la porter même ici dans Paris, il y a déjà un transfert qui est étonnant.
De le juxtaposer aussi à une histoire qui serait celle supposée d'un espace comme celui-ci,
bien sûr,
qui lui-même a déjà un parquet. Il y a comme ça aussi un transfert.
À la fois dans l'histoire et dans la géographie, un truc. Ça, c'est des choses qui ont un peu traversé l'ensemble de l'exposition, parce que nous, pour nous, c'était, si on revient à la question de la matière, du transfert de matière, il y a comment on fait une exposition, comment on constitue une exposition, c'est d'abord venir poser, ça peut être simplement aussi du vide, mais a priori, on vient poser un élément, un matériau qu'on a extrait ailleurs et qu'on vient poser dans un espace précis, défini. Et là, en l'occurrence... Le fait d'être ici, il y avait comme ça ce rapport domestique d'un appartement, d'un parquet. Donc il y avait aussi, voilà, donc ça a été, c'est venu aussi le choix même de l'artefact, parce qu'il nous fallait quelque chose qui soit extrêmement tendu dans l'usage, dans ce qu'on ferait de cette matière, puisqu'on est parti d'abord de cette idée qu'on allait prendre. Cette matière nous intéressait pour ce qu'elle évoque, tout ça, tout ce qu'on se racontait, et on ne savait pas du tout comment on allait la destiner. Mais en tout cas, on voulait quand même traverser, faire tout ce processus de fabrication. Et c'est vrai qu'en venant ici, ça a été le déclic, ça a été finalement de questionner le rapport au parquet et d'en produire vraiment un usage qui, pour nous, quand on travaille le champ de l'architecture, voilà, qu'est-ce qu'un parquet ? C'est simplement une surface sur laquelle on vient marcher, etc. Donc, et puis ça renvoie, si on veut aussi en parler, de la question de l'histoire des parquets avec des nominations, des parquets d'un château.
Oui, parce qu'en l'occurrence, c'est le parquet supposé du château de Vassivière.
Voilà. Donc du projet qu'on fait. Il y a une espèce de mise en boucle de la chose.
Tout ça se retrouve. Et c'est vrai que les œuvres, en ce sens, résonnent beaucoup les unes avec les autres par des cheminements à la fois. terrain est très visible. Mais aussi l'œuvre qui est là-bas, donc, qui s'appelle Vanishing Point, hein, ou qui est littéralement le transfert d'un espace extérieur vers un espace intérieur, donc, qui rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des transferts d'espace, de l'intérieur vers l'extérieur.
Oui, enfin, c'est l'idée d'un espace dans un autre, de mettre en tension deux architectures. L'un vient venant, enfin, qui semble comme ça d'une modernité, qui vient se juxtaposer dans un cadre qui semble plus historique, et venir le séquencer comme ça, et qui pourrait presque dépasser ce lieu-là, et pourrait continuer comme ça se propager dans la ville.
Si vous avez des remarques ou des questions aussi.
Je suis arrivé un peu tard, mais tu parlais de la liberté de l'interprétation. Et je pensais à. C'est un raisonnement de Baudrillard, mais je ne me souviens plus de son sujet. On semble offrir quelque chose, ne pas préconditionner la vie de l'usager ou du spectateur, mais on exerce une énorme terreur sur lui. Parce que l'autre de ça est un point de vue assumé et fort qui permet à l'autre de se prononcer par rapport au point de vue affirmé. Et je peux prendre l'exemple de cette exposition que je peux vivre comme un espace de terreur parce que c'est extrêmement... Ça comporte un grand mystère. Où est l'exposition? Qu'est-ce que c'est? Et c'est un facteur inhibant. Je l'ai dit, ces jeunes gens sont étudiants. En plus, dans une démarche pédagogique. Donc, c'est cette chose qui a l'air offerte exerce en fait une terreur très violente, au contraire des images qui peuvent s'échanger, qui peuvent se négocier, qui peuvent être détournées. Je trouve que c'est assez intéressant. Et sur ces problématiques d'architecture, évidemment, plus toutes ces questions de grands espaces qui sont tout de suite reformatés. À l'ouverture, Beaubourg était déjà divisé en deux à cause du commandant des pompiers, sur un plateau, donc, pour des raisons de sécurité, puisqu'il y avait des plateaux vides, comme un théâtre. Et ça, c'est un autre aspect, mais je trouve que c'est... Est-ce que la non-fonctionnalité n'exerce pas une terreur, quoi? Enfin, la non-interprétation nous renvoie tout de suite vers des questions métaphysiques. Et c'est très dur de porter des questions métaphysiques. Enfin, en plus, elles sont déjà un petit peu toujours un peu kitsch, un peu ridicules, et puis elles sont glaçantes. Et je trouve que c'est un bon... Hein?
Elles sont toujours déglaçantes.
C'est un copain.
C'est le point qu'inspire à chacun ses propres interprétations, en plus.
Mais c'était très généreux de penser que chacun aura sa propre interprétation. Mais par exemple, une pratique pédagogique régulière va s'élever en faux contre ça tout de suite. On sait que la force du cliché est très forte. Enfin, le grégarisme, ça demande un long travail. La 16 est la chose par excellence qui demande le plus long travail, dans quelque domaine que ce soit. Moi, je ne trouve pas. Enfin bon, ça redevient anecdotique, mais les modernistes ne sont pas très ascétiques, par exemple, en général, malgré leur discours sur cet ascétisme. C'est plutôt. C'est pas. C'est une vraie question, quoi. L'espace étant ouvert, qu'est-ce que. Ah, c'est bon. Mais mon couple dialectique est plutôt valeur d'image, valeur d'usage, aujourd'hui. Mais là, on terrifie, quoi. On glace, on atomise complètement. Il reste une espèce de poussière grise. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette poussière? Je suis plutôt pop. En même temps, c'est bien parce que ça... ça pourrait lutter contre le marché. En faisant les images, mais ça paraît très ambitieux.
C'est une démocratie.
Ouais, une agora. Ouais. Mais avec qui sur l'agora? L'agora, on peut la faire n'importe qui. Mais on a tendance plutôt à demander un minimum d'heures pour arriver à discuter des chaises, des choses. Pour apprendre une posture, fumer une cigarette, commander une boisson. On a perdu les cafés, c'est dommage, mais c'est un endroit où les gens discutaient beaucoup. Il y avait une raison quand même. La neutralité de l'espace, là, elle était donnée. Si on parle d'espace neutre, elle était accordée.
Mais après, on s'est mis à souffrir d'agoraphobie depuis là, les choses se sont...
Est-ce que vous voulez conclure, patron? Je suis sûre que vous allez faire ça très
très bien. Non, justement. Parce que je passe mon temps à parler d'espace ouvert, alors ce serait contre nature. Non, je dois dire...
Pour partir avec quelque chose et continuer, bien sûr.
Oui, voilà. Non, je dois dire que j'ai été... alors, je ne connaissais pas vos œuvres. Et lorsqu'Alexandra m'a appelé, téléphoné... pour présenter le projet, j'ai immédiatement été séduit justement par ce qui peut faire peur justement. Alors il faut croire que je suis audacieux. C'est l'idée de pouvoir placer des je ne connaissais que le globe blanc. Après j'ai découvert d'autres œuvres, j'ai très vite découvert cette carte dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui on va dire, mérite également des commentaires. Je la présente, c'est la carte des ghost towns, des villes fantômes. Qui peut, enfin on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, mais rapidement, qui peut également entraîner une série de commentaires. Ce qui est extraordinaire, c'est que la ville fantôme, donc la ville qui a périclité, on la retrouve dans le Nouveau Monde. C'est pour ça que je pose la question, si elle avait une valeur statistique, c'est-à-dire si, bon, des ghost towns, il y en a quelques-unes, il y a Babylone aussi qui n'est pas vraiment le... qui n'est pas dans le Nouveau Monde, mais là la concentration de taches bleues sur fond nord-américain et en numéro 2 sur fond australien est quand même très très impressionnante. Donc ça c'est un travail que j'ai découvert très très vite parce que vous m'avez envoyé justement une copie de la carte qui là aussi inspire toute une série de commentaires. Là aussi ça fait peut-être encore plus peur que le globe blanc parce que c'est vide. Mais ça a été vidé. Le globe, on peut espérer qu'il, justement, si on dépasse la vision apocalyptique, qui n'a pas été vidé, mais qui reste à... ou comme ça, ou à remplir comme on veut.
La carte est plus vivante.
Oui, et puis surtout, c'est le processus inverse. Là c'est sur fond noir. C'est quelque chose qui est en train de perdre des couleurs. Ce sont deux travaux complémentaires, donc c'est deux travaux que je connaissais, je ne connaissais pas le reste, je ne connaissais pas l'espace non plus, qui est remarquable. J'avoue que ça questionne, et ça peut effectivement faire peur, parce que les questions restent pas sans réponse, mais demandent une réponse. Et ouais, il y a le problème du fardeau de la liberté, quoi. Trouver une interprétation, mais pas nécessairement la chercher, je crois qu'elles viennent toutes seules. Il y a un côté de, justement, enfin c'est vraiment l'œuvre ouverte, hein, pour reprendre un vocabulaire connu. De ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Donc j'ai personnellement découvert aussi les photographies de Versailles, donc dont on parlait tout à l'heure, le Vanishing Point, donc faut avoir inversé avec le centre est vidé. Bon, c'est ça rejoint beaucoup ce que j'ai fait là aussi dans le dernier livre. J'ai parlé de la question de l'ombre phallos, du nombril du monde. Là aussi il y a toute une réflexion sur où fixer le nombril, comment le nombril du monde a été fixé. Chez les Grecs il a été fixé très vite, mais a posteriori, comme par hasard, le centre du monde c'est Delphes. Et Zeus avait lâché deux aigles aux deux extrémités de l'horizon, ou du ciel, parce que l'horizon, je répète, du ciel, et les deux aigles, comme par hasard, se sont retrouvés au-dessus de Delphes. Et là, il y avait déjà l'idée de centre vide, parce que dans le temple de Delphes, on retrouve la Pythie, donc, qui rend des oracles d'interprétation justement difficiles, qui font peur et qui fourvoient, puisque la plupart du temps on interprète mal et c'est là qu'on rencontre un destin néfaste. Mais au centre du monde se tiennent des propos incompréhensibles. En même temps, c'est peut-être le premier signe d'une démocratie grecque, parce que si les propos sont incompréhensibles, en même temps, c'est des propos qui restent libres, qui sont soumis à l'interprétation de chacun. Donc chacun y trouve ce qu'il cherche. Et ça renvoie encore une fois à Vanishing Point, très très clairement, dans ce centre vide, on peut trouver ce qu'on veut. Mais ça fait peur, parce que justement, pour beaucoup, on aime bien avoir un centre bien qui, voilà, le centre politique. Donc ça rejoint. Et puis pour en finir sur le temple de Delphes, les Grecs très très souvent le considéraient comme le